Bonjour, bonsoir, bienvenue à Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je suis Guillaume.
Janie.
Hey, on t'entend pas.
Et Farouko.
Oh. Encore une fois. C'est moi en plus qui l'a mis du mauvais bord. Ouais, mais à culpa.
Alors, ben bonsoir. Ben ce soir, on va encore vous faire notre émission d'actualité hebdomadaire. Donc, on a quand même plusieurs sujets là, qui ont retenu notre attention dans l'actualité. Janie, t'as quoi?
On va parler des obsèques qu'a reçu l'ancien chanteur chilien Victor Jara. Il y a un groupe de citoyens californiens qui veut interdire le divorce.
Sinon, bon, on a plusieurs trucs là, au niveau local. On a encore la façade qui fait jaser, la façade de l'église Saint-Vincent-de-Paul qui fait jaser. Ensuite, plusieurs trucs là, par rapport bon, à l'enquête Villanueva, des trucs économiques, des trucs sur à cette île aussi. Il y a une mobilisation intéressante là, par rapport aux mines d'uranium.
Les méchants docteurs.
Ouais, les méchants docteurs qui abandonnent la population.
Non, ils prennent en otage.
ouais, c'est là. Ben, ouais, ils prennent en otage, mais est-ce qu'ils foutent le camp? Mais bon, on va en discuter tantôt.
Ça dépend des médias.
Oui, c'est ça. Fait qu'on va écouter quoi?
Là, on va aller avec un vieux band. On va y aller avec Caméra Silence, avec la pièce Comme hier, spéciale dédicace Mathieu s'il nous écoute.
De retour à Voix de fait. On va aller avec quelques nouvelles au niveau local, régional. D'abord, on parle. On sait que la campagne électorale est finie depuis à peine un mois et on sait aussi quel a été le résultat à Québec, soit un sacre de.
Un massacre
de Régis Labeaume. Mais à travers cette campagne-là, il y avait eu un point, dans le fond, qui avait été presque considéré comme une avancée, ou en tout cas un début d'avancée du côté de deux candidates de justement l'équipe Labeaume, qui avait dit, en parlant de l'ancien patron Saint-Vincent-de-Paul, là, vous savez, l'espèce de façade qui comme donne l'impression qu'elle va tomber sur le dessus de la côte en Hauteville, dans Saint-Jean-Baptiste, en fond. C'est cette façade-là, à cet endroit-là, il y avait un projet, dans le fond, d'un hôtel, un hôtel de Jarreau, dans le fond, qui avait, les plans étaient sortis dernièrement. Mais il y a aussi de la résistance au niveau du quartier, au niveau, entre autres, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, où là, on demande des consultations depuis belle lurette pour que, justement, il y ait des logements qui soient construits là au lieu d'un autre gros hôtel qui viendrait un peu défigurer le haut de la côte et n'a aussi créé, dans le fond, ne rien faire pour aider à la pénurie de logements, en fait. Donc,
ouais, l'objectif, c'est d'occuper le terrain pour vrai, pas à moitié. Un hôtel, c'est très passager, puis c'est de la business. Puis de la business, on s'entend que dans ce coin-là, il y en a en masse.
Ben, c'est ça, le caractère hôtelier, dans le fond, de ce coin-là, il y en a plusieurs, effectivement. D'ailleurs, il y a un autre Jarreau à deux coins de rue.
Il est affreux. C'est pour ça qu'au début, en fait, les politiciens de l'équipe Labeaume avaient promis d'exproprier. C'était d'ailleurs basé sur le fait que Jarreau, il fait toujours des atrocités.
Oui, effectivement. On a juste à se promener un peu dans Québec pour s'en rendre compte. Mais c'est ça, effectivement. C'est là un peu l'aspect qui avait été mis de l'avant. Mais là, c'est ça, là. Faut se fier à Régis Labeaume, apparemment.
Ah oui.
Il a vu les plans.
C'est Dieu.
C'est beau. OK?
C'est
ça
magnifique.
Ça va être beau, ça va être magnifique. Ça va être flamboyant sur le dessus de la côte.
Spectaculaire.
Tassez-vous de là, il n'y en aura pas d'expropriation, c'est terminé.
S'il y avait eu cet hôtel-là, les rois mages, ils auraient été voir Jésus, là.
Ils ne seraient pas allés voir Jésus, en fait, ils auraient été couchés au Jarreau, c'est ça. Dépasser toute leur richesse.
C'est le temps des fêtes.
C'est ça. Alors, on vous souhaite un bon joyeux Noël. OK. Trêve de plaisanterie. Bref, il y a quand même là quelque chose à faire, quelque chose à. Je veux dire, on voit quand même un musellement clair là, par rapport à Dumaire qui dit bon, regardez, moi, ce gars-là, il a contribué à ma caisse électorale. Il m'a montré ça en primeur. Puis, comme tassez-vous, ça va être lui qui va faire ses affaires. Malgré le fait que c'est justement un coin névralgique, c'est un coin où il y a beaucoup de passages, c'est un coin aussi où il y a beaucoup de gens qui auraient avantage à habiter à cet endroit-là pour être proche du travail et tout.
C'est un coin qui n'aurait besoin d'aucun aménagement particulier pour le transport en commun, pour les services, absolument rien. Tout est proximité de les deux lignes de métrobus, si je ne me trompe pas, plus la 7, qui est une des plus achalandées, plus un hôpital pas très loin, en fait. Là, l'hôpital,
l'hôtel Dieu est l'autre côté de la rue. Ben, l'autre côté, en tout cas.
C'est pas comme un quartier éloigné où il faut aller amener un transport en commun inefficace, bâtir des services. C'est là, c'est près.
Le bassin là, aussi où il y a des emplois, des emplois de toutes sortes, en fait, dans ces environs-là. Là, je veux dire qu'on parle de restauration, qu'on parle de fonctionnaires, qu'on parle de. En tout cas, trouvez-en, la liste est longue. Là, je veux dire, on est au centre-ville. Fait que de pouvoir amener des gens qui restent plus près, je pense que c'est un des avantages. Puis d'avoir un aussi grand terrain, un aussi bel emplacement, justement, où il y aurait justement moyen de faire quelque chose qui. Parce qu'on le voit de loin, là, on s'entend, là, ce coin-là. Là, si on s'en va, on a même rendu à Charlebourg, je veux dire, on voit très bien cet endroit-là. S'ils vont nous faire une espèce d'horreur énorme, là, ça va...
Pour accompagner les grosses bulles de béton à revers la paire.
C'est ça. C'est peut-être ça le concept, dans le fond. Ça va comme être la place
bulle.
Où les bulles de savon sortent.
Ah non! Ils vont faire une laveuse.
Ben en tout cas, il y a certainement là-dessus que les groupes populaires du quartier, dont entre autres le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, vont continuer à lutter, continuer à faire savoir leur opposition, dans le fond, à ce gros hôtel-là. Puis, à date, dans le fond, ce qui est demandé, si c'est des consultations publiques, ce serait un gros minimum pour faire en sorte au moins que ça...
Là-dessus, Régis, ça a été clair. Parlez-moi-en même pas.
Ben, viens pas aux consultations, on va s'en parler entre nous autres, ça va être bien correct. Bon, ben sinon, en sortant un peu de Québec, pas si loin, quand même, ça fait quelques heures de route, mais dans le coin de cette île, il y a une lutte qui dure depuis quand même quelques temps, en fait. Au niveau minier, c'est qu'il y a un projet de mine d'uranium. En fait, c'est de l'exploration qui est faite actuellement à environ 20 km de la ville de cette île. Puis cette exploration-là, dans le fond, est faite par une compagnie dont le nom est comme...
sûrement une PME locale.
oui, PME locale, du local de Vancouver. Là. Mais en gros, c'est que cette compagnie-là, c'est une mineure, là, comme on dit, là, qui est là juste pour aller faire le
ben, ils font des tests. Là.
C'est ça. C'est comme pas une compagnie qui existe, en fait. Là. Ils n'ont à peu près pas eu de dépenses autres que genre une coupe d'administration puis genre le début de... Juste de se dire, ah, OK, là, on fait des tests à cet endroit-là. Ils ont dépensé un peu d'argent là-dessus. Ouais, puis à part ça, ils n'exploitent rien à date. Puis leur seul, dans le fond, leur seul but, ce serait éventuellement d'avoir une mine dans ce coin-là. Mais c'est effectivement, le potentiel serait est supposé assez élevé dans ce coin-là, près de cette île. Sauf que c'est extrêmement proche d'une ville. 20 km pour une mine d'uranium, là, c'est à côté. Là, c'est comme tes voisins là, de... T'es voisin de la ville, puis toutes les radiations qui sont liées, entre autres à un gaz, on parle du radon, qui est un gaz extrêmement nocif quand justement il est libéré en quantité industrielle, comme ça serait le cas dans une mine d'uranium. Ben, dans ce coin-là, mais c'est clair que la ville de cette île serait exposée, puis on parle ici justement en plus. Que des déchets minéraux qui seraient rejetés une fois le...
Des déchets radioactifs aussi, ça reste.
Ben exactement, c'est ça. L'uranium, c'est un des minerais qui, quand il est exploité, a beaucoup de rejets. Là. On a parlé beaucoup de la mine Osisko là, à Malartic, là, que ça va faire des rejets vraiment, vraiment beaucoup avec une mine d'or. Mais là, ici, on parle d'un minerai qui fait encore plus de déchets. Donc, il faut comme creuser la roche. Il faut aller chercher cette roche-là, cet uranium-là, le séparer du reste. Mais ça reste que la roche autour, même s'il n'y a pas de l'uranium, elle a été irradiée par l'uranium. Donc, c'est comme tout mettre ça à découvert là, actuellement dans la terre, dans la roche. C'est comme un peu isolé. C'est pas dangereux d'aller se promener dans ces coins-là parce qu'il y a une teneur en uranium assez élevée. Sauf que là, si on fait l'inverse, si on ouvre la terre, qu'on ressort tout ça, ben c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les populations. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il y a moyen de faire des mines d'uranium qui sont sécuritaires, sauf que le but, c'est qu'elles ne soient pas aussi proches d'une ville. Il faut qu'elles soient assez éloignées. Puis il faut aussi que la compagnie qui est à la base soit capable d'avoir les reins assez solides pour dealer avec les restes, dealer avec les normes de sécurité minimales à mettre en place. Puis ce qu'on observe actuellement à cette île, ce que plusieurs groupes en fait qui s'opposent à cette mine-là observent, c'est que ce n'est pas le cas actuellement. Puis bon, pourquoi on parle de ça, effectivement, et sûrement que si vous avez écouté un petit peu les nouvelles ces derniers jours, c'est une vingtaine, là, je pense qu'on est rendu à 23 médecins qui menacent de démissionner actuellement à cette île, ce qui est plus que la moitié de l'effectif médical de la ville qui menace de démissionner.
Mais eux autres, ils élargissaient à la région, ils disaient que c'était le tiers de la région qui voulait démissionner. Mais eux aussi, ils parlent de contamination possible de la nappe phréatique qui passe exactement où la mine va être.
Oui, j'ai vu une carte. En fait, c'est sur le site de ruefrontenac.com. C'est là que j'ai trouvé la carte, mais elle est vraiment bien faite. Là, on voit exactement comment... attendez, je vais la trouver dans mes...
Eux, ce qu'ils disent, c'est que les déchets... c'est comme toutes les mines que vous voyez, au fond. Vous avez comme une espèce de bassin de rétention avec de l'eau contaminée. Tu sais, les belles photos aériennes avec de l'eau... couleur huile, puis ça, c'est au-dessus de votre nappe phréatique. Ouais, faites-vous-en pas, il n'y a pas de danger.
Non, aucun danger. En fait, c'est que ce coin-là, c'est la rivière Moisy qui passe tout près, en fond, des concessions là, données à la compagnie Terra Ventures. Excusez, j'ai trouvé le nom de la compagnie. Puis la rivière Moisy, là, c'est une des dernières grandes rivières là, à cette heure qu'ils veulent bétonner la Romaine puis bétonner comme toutes les rivières sur le nord du fleuve. Ben, c'est une des dernières grandes rivières qui est à l'état naturel au Québec. Puis c'est aussi une des supposées concessions que le gouvernement a fait aux communautés Inuits. Ben, a fait, mais qui n'a pas nécessairement été accepté parce que les Inuits s'opposent toujours au projet de la Romaine. Mais donc, la rivière Moisy, il y a un projet justement de réserve aquatique et de réserve écologique tout près. En fait, c'est la Matamec à côté de la Moisy, dans le fond, sur la carte, on le voit là. Puis, c'est collé là. On parle d'une réserve aquatique protégée et d'une réserve écologique protégée à côté d'une mine d'uranium. Puis avec une rivière là, qui
c'est la frontière.
Ben c'est ça.
Elle joue à gardien.
Non, ben, elle est pas exactement collée là. T'as comme la petite zone tampon de forêt, mais c'est comme en tout cas, c'est complètement aberrant. Puis la Moisy, elle sort tout près de cette île. Puis justement, comme tu disais, la nappe phréatique, elle en fait partie là. Puis, fait qu'au fond, l'opposition de ces médecins-là, je veux dire, cela s'est dénoncé sous toutes les tribunes comme quoi ce serait comme un abandon total de la population, que là, on prend la population en otage, mais.
Il n'y a pas de demande de rançon.
Ben non, c'est ça, il n'y a pas de demande de rançon. Puis, que ces médecins-là disent depuis, ça fait pas deux jours, là, que depuis qu'ils ont décidé de démissionner, qu'ils dénoncent le problème. Ça fait plus qu'un an. Ça fait plus qu'un an qu'il y a des dénonciations dans ce domaine-là en disant c'est dangereux pour la population, c'est dangereux pour avoir une augmentation des cas de cancer, une augmentation des cas de maladies diverses. Puis, je veux dire, on peut pas, en tant que médecin, dire accepter ça. Tu sais, accepter. C'est un surcroît de travail, mais en même temps, je veux dire, si.
Mais c'est ta sécurité personnelle qui est en danger. Je veux dire, si j'avais les moyens financiers, habitant à cette île, médecin ou pas, puis que je savais qu'il allait ouvrir la mine d'uranium, mais je foutrais le camp.
Ben c'est ça, puis c'est ce que la plupart disent aussi, c'est pour leur famille, c'est pour eux, c'est pour les gens qui soignent, parce que je veux dire, il y a des gens qui sont déjà malades, puis que dans le fond, ouais, tu leur rajoutes ça une couche par-dessus, ça marchera plus. Puis même des gens qui sont en excellente santé qui vont développer des maladies avec ça. Donc c'est puis en tout cas. C'est une autre preuve par quatre, si on en avait encore besoin, que la loi des mines au Québec est vraiment complètement merdique. Je veux dire, cette compagnie-là est allée avec les concessions, avec la manière classique de genre des claims, là, de dire bon, ça c'est tout, ça m'intéresse, ça, je vais aller faire de l'exploration là. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait, même s'il y avait une ville tout proche, puis que cette ville-là est quand même assez importante, là, une ville d'une quarantaine de milliers d'habitants qui est comme qui est un des bastions de la côte nord où il y a encore une population vivante, là, que je veux dire, c'est quoi, on cherche à expulser tout le monde encore une fois, puis
on ferme la place.
Ben c'est ça. Fait que tu sais, Malartic prise 2.
On est capable.
Oui, c'est ça. Fait que c'est une lutte qui est extrêmement intéressante, puis j'espère qu'on va avoir des développements positifs de ce côté-là.
Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que la population en général appuie, ou bien en fait...
C'est le cas, là. Il y a une lettre ouverte qui est parue mardi, là, puis on parle là, de plusieurs groupes, là, ben, entre autres des MRC. Deux MRC, il y a des villes, des villages qui dans le fond s'oppose aussi à ça. C'est pas trop clair là. Il y a des villes, des MRC, mais c'est par secteur, c'est ça. C'est comme les secteurs qui entourent cette future mine là. En plus de justement la communauté Innu de Ushuat-Mac-Maniutenam. Puis qui représente environ 30 000 personnes, plus toutes les populations là, en tout. Je veux dire, on parle de quasiment toute la population de là-bas, là, des organismes qui le représentent, des groupes aussi locaux, communautaires et tout ça. Donc, il y a une réelle opposition. Reste à voir comment elle va sortir. Mais...
Bref, en conclusion, on se ramasse encore la population contre l'élite qui contrôle le gouvernement.
Exactement.
Comme à l'habitude.
Ouais.
Un grand classique.
Fait que, ce serait pas mal ça pour local.
Parler un peu de Villanueva, finir le local.
On peut en parler
vite fait pour finir le local.
Ben c'est ça. Bref, l'enquête sur la mort de Freddy Villanueva à Montréal a repris cette semaine. Puis là, ce qu'on a entendu comme témoignage, c'est une partie du témoignage des ambulanciers et ambulancières qui ont intervenu pour essayer de réanimer Freddy Villanueva. Puis probablement aussi les autres blessés dans la fusillade. Puis on a aussi, je sais pas si Stéphanie Pilote, excusez, je l'ai nommée.
Ouais, on a le droit.
Ah, on a le droit.
On peut la nommer, on peut pas la montrer.
Ah, je peux pas la dessiner.
Non, même pas. Parce qu'aux nouvelles, d'habitude, ils montrent un dessin du monde. Il n'y a pas de photo, mais pas de dessin d'elle.
Même pas d'elle.
Aucune représentation d'elle.
En tout cas.
Ni de lui, l'autre bozo. Là.
J'ai vu Jean-Loup Lapointe.
Ouais, il faut
qui avait peur de mourir.
Il avait peur de mourir.
Mais j'ai vu son genou.
Oui.
J'ai une photo de son genou, puis j'ai une photo du coude de l'autre. Mais oui, c'est... En tout cas, c'est dur à voir qu'il y a quelque chose, mais bon.
Moi aussi, avec des érafleux de même, j'aurais eu peur de mourir.
Oui, effectivement. Mais, fait que bref, c'est ça, ce qu'on dit, c'est que les blessures que ces gens-là disent avoir... les policiers disent avoir reçues ou avoir potentiellement reçues, là, soit avoir été tentative d'étranglement, puis tout ça.
Ils ont essayé de faire étrangler le genou.
Oui, c'est ça. Il a mal visé, tu sais, tombé sur le genou.
Maudit.
Puis, c'est ça, c'est que il y a aucune preuve physique de ça. Les examens qui ont été faits à l'hôpital ont pas révélé ce genre de blessure-là. Là. On parle pour le policier Jean-Loup Lapointe. Ah, c'est Jean-Loup Lapointe, c'est Fanny Pilote, c'est ça, qui, dans le fond, lui, il a une ecchymose sur le coude. Puis
un autre tentative d'égratignure.
Oui, c'est ça. Puis elle a des égratignures sur les genoux. Puis... là, il y a quelque chose qui est pas clair aussi, là, c'est qu'on parle d'une note manuscrite qui est comme apparue soudainement comme ça cette semaine. Là. Ben, cette semaine pour les gens qui défendent Freddy Villanueva, puis il y a comme peut-être un mois là, pour le reste des gens. Cette note manuscrite-là qui aurait été écrite par la policière pilote qui dit, dans le fond, qui relate fidèlement, ou en tout cas à peu près fidèlement ce qu'elle a mis dans son rapport qui est paru lui un mois plus tard là, au mépris de toute règle. Puis dans le fond en gros ce qu'on dit c'est que c'est ce qu'il y a là-dedans. Ben, j'ai quelques extraits là, dans le journal qui sont relatés, mais en gros à part que c'est écrit tout plein de fautes, ce que il est dit par le journaliste c'est que la note en tant que telle est écrite de manière super soignée, très bien écrite et tout, mais que apparemment qu'elle était en état de choc à ce moment-là, quand elle l'a écrite. Puis ce serait pour ça. C'est
pour ça les fautes.
Ouais, c'est pour ça les fautes, mais elle écrivait encore très bien, très sans aucun tremblement ou quoi. Puis, mais c'est, bref, une note comme ça qui apparaît.
De toute façon, la version.
Des preuves,
ouais, la version policière, elle change constamment.
Ouais, ben,
au début, il avait été agressé par une quantité folle de gens. Après ça, peut-être pas, on sait plus, on est perdu. Ils n'ont jamais été séparés après, après l'altercation. Ils ont pris les deux policiers, ils ont emmené ensemble voir leur délégué syndical. Et, attends, ils viennent de tuer quelqu'un pour voir le délégué syndical. C'est malade.
Tu sais, on parle vraiment là, de deux poids, deux mesures. Je veux dire, ayez un accident de travail ou ayez un petit conflit à votre travail, puis vous faites une erreur quelconque à votre travail. Délégué syndical, il vient loin après le boss. Hein, puis il vient loin après, comme peu importe quelle sanction tu peux avoir pour ton pour ce que tu as fait. Fait que, on parle vraiment là, des lois d'exception pour la police. Puis,
des citoyens avec des droits exceptionnels.
Ouais. Puis ouais. Ben, on peut déborder du local tant qu'à ça, tant qu'à parler de police. Il y a eu
dans le meurtre aussi.
Oui, c'est ça. Par rapport à Robert Diekanski, qui est le ressortissant polonais, dans le fond, qui avait été tué dans la région de Vancouver, en fait, qui a été taisé de multiples reprises. Là, la vidéo a fait la manchette pendant un certain temps, puis il était comme poursuivi par 4 policiers. Le gars était probablement en crise ou on ne sait trop. Ah, puis,
il était pour les agresser avec une brocheuse.
Ouais, c'est ça. Il était juste comme. Il cherchait quelqu'un là, dans l'aéroport. Puis,
il était égaré depuis un bout. Puis ouais, il avait des troubles.
Probablement mentaux. Je sais pas s'ils étaient définis ou quoi, mais. En tout cas, bref, là, l'organisme de surveillance des activités de la GRC dit que, dans le fond, a sévèrement blâmé les policiers pour avoir mal fait leur travail, bref, de comme avoir utilisé le taser trop rapidement, à répétition, trop souvent, parce que sans avoir vérifié si ça avait eu un effet.
Ni même sans avoir tenté avant, au préalable, de calmer le gars.
C'est ça. Fait que, bref, le blâme est assez complet, là, on s'entend. Sur,
ouais, puis il parle de, pas forcément un moratoire, mais enfin, une restriction plus une formation accentuée pour l'utilisation des tasers pour les forces de police. Puis, mais c'est un blâme suivi d'aucune sanction.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas...
Il n'y a aucune sanction qui suit parce que, selon ce qu'il dit aux nouvelles Radio-Canada, c'est qu'il y avait péremption pour commencer une enquête disciplinaire. Ils ont tué un individu, il y a péremption. Chercher l'erreur.
C'est ça. On peut se faire suivre par la police et s'ils attendent trop longtemps pour enquêter sur eux autres mêmes, ben c'est périmé.
Et voilà.
C'est merveilleux. Puis là, Villanueva, on ne sait pas non plus. Hein, ça va,
lui, l'enquête est entamée, attends. Ouais. Fait que là-dessus, ils ne pourront pas jouer. Mais là, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un délai au niveau des règles internes de la GRC qui avait été dépassé. Donc, on ne pouvait pas commencer l'enquête. En tout cas, il se ramasse avec une tape ses doigts. Méchant garçon, vous avez tué un homme. Retournez travailler.
Allez tuer quelqu'un d'autre, ce sera pas grave. Ouais.
Prochain coup, faites-vous pas filmer. On va continuer en musique.
Ouais.
On voyait avec Tikenja Fakoli avec une pièce qui fit un peu. Avec la pièce « Où veux-tu que j'aille? »
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
T'as brûlé ma maison d'Abidjan parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné, mon papa a tant sué. Moi je suis né là. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille. Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Je suis né à bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit donc meilleur pédigré. J'avais un beau teint tigré. Plaque, je suis tombé côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Moi longtemps, j'ai été pour la loi. Va pour nos ancêtres les Gaulois. Je disais même pour entrer dans le moule, allez ça roule. Là je suis tombé côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Alors où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Nous sommes tous nés là, exilés sans autre choix. Nos grands-pères se sont sacrifiés, nos papas se sont intégrés. Même si on nous traite d'étrangers, pourquoi veux-tu qu'on s'en aille? Prends la pagaille, où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Mais où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille? Où veux-tu qu'on aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu qu'on aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que je m'en aille?
Mais où veux-tu que j'aille?
Alors, où veux-tu que j'aille? Tikenja Fakoli. On est de retour à Voix de fait. Alors, on va y aller avec quelques nouvelles internationales. On va commencer
par une nouvelle qu'on peut que... Quand tu la regardes, tu fais comme, mais voyons, ça n'a pas bon ça, t'as envie de rire, mais c'est vraiment vrai. C'est en Californie qu'il y a un groupe de citoyens qui veut interdire le divorce.
Oui.
Ouais, c'est une bonne idée, voyons.
Mais c'est
un t'as juré pour la vie.
Oui, moi, je pense qu'on prend la nouvelle à l'envers.
Ben, ouais.
Moi, je pense qu'en réalité, c'est une attaque au mariage. Ils veulent interdire le mariage, cause première du divorce. Je suis sûr que c'est ça.
En tout cas, c'est un projet qui est quand même après ironique, qui a été mis sur pied par John Marcotte, son père de famille de 38 ans, qui est originaire de Sacramento, Californie. Il est marié depuis 7 ans, puis il s'est donné pour mission de rendre divorce illégal en posant la question par référendum durant les élections de 2010 en Californie. Puis on s'entend que c'est une initiative qui provoque une controverse quand même, une chance.
Tu pètes ma bulle.
Les groupes de droite, lui, il dit en entrevue que les groupes de la droite religieuse veulent protéger le mariage en disant mariage gay. C'est, je trouve que ça n'a pas le cœur du sujet. Si vous voulez vraiment protéger le mariage, que ne pas interdire le divorce. Puis, il a lancé un site web, il y a des t-shirts pour, qui vend pour mobiliser le monde. T'sais, on y voit un couple de mariés maintenus ensemble par une chaîne cadenassée.
Ah, c'est mieux qu'une corde. Moi, j'aurais mis une corde autour, du coup.
ils ont d'ailleurs tenu récemment une manifestation devant le Capitole à Sacramento, la capitale de la Californie. Le groupe, ils disent vouloir accoter 694 000 signatures sur le nombre requis pour les questions d'élimination du divorce opposé par référendum. Puis ce gars-là, ben, il a été qualifié de talibans chrétien.
Enfin, un qualificatif. Ouais, justifié.
Ça, c'est... Il y a un article qui est sur l'initiative qui était paru dans LA Times. Ça a provoqué plusieurs réactions. Puis, justement, il y a un lecteur qui... Un autre lecteur déplore l'idée d'interdire le divorce. Cela ne ferait qu'augmenter le nombre de meurtres.
Mais tu sais, en Californie, c'est une initiative qui peut paraître, tu sais, justement, qui est poche de prime abord comme ça, mais... je pense pas qu'en Californie ça va passer nécessairement. Là. C'est ni l'Idaho ou l'Oregon.
Mais c'est louche. La Californie, c'est louche. Il y a autant des trucs vraiment le fun qui passent qu'autant des fois des trucs, t'es comme. Si je me souviens bien, il faudrait plonger, mais je pense que ça fait partie des États que c'est three strikes, you're out, une affaire de même, mais la troisième récidive, c'est prison à vie automatique. Mais t'es, la Californie, bordel!
Mais c'est parce qu'en Californie, il y a les référendums d'initiative populaire, là, comme ce que lui veut faire, c'est comme quelque chose qui marche à fond. Là. C'est vraiment... c'est entre autres pourquoi cet État-là est en faillite actuellement, même si c'est genre... si tu le mets dans le palmarès en tant qu'un État, là, en tant qu'un pays...
il est ultra riche.
C'est genre le sixième pays le plus riche au monde, là, si tu le prends en tant que lui-même.
Entité,
Sauf que il y a eu tellement de référendums d'initiatives populaires pour empêcher les impôts que, genre, il n'y a juste jamais eu d'impôts, ou à peu près. Là, il y a quelques taxes, puis ça fait genre que l'État est complètement dans la merde. Mais
je me demande s'ils pouvaient faire un référendum pour annuler la dette.
Ça, pas sûr.
Je sais pas si leur créancier voudrait, mais bon.
Puis, ça fait qu'il peut connu aussi, c'est dans les États les plus pieux qu'on retrouve le plus haut taux de divorce aux États-Unis. C'est dans les États conservateurs qui font Bible Belt, l'Alabama, le Texas, le Missouri, etc., qui ont un taux de divorce de 5,1% parmi les habitants, tandis que les États du Nord sont plus progressistes, ben eux, c'est de 3,5 divorces parmi les habitants. Puis les chercheurs attribuent le haut taux de divorce des États du Sud au fait que les conventions sociales et religieuses ainsi que les gens se marient dès le début de l'âge adulte. Après ça, ils se retrouvent comme « Mais
c'est aussi, pas avant de le faire. »
C'est aussi dans Bible Belt qu'on retrouve la communauté de l'anneau d'argent qui appelle là, truc de chasteté. Puis c'est aussi dans ces états-là où il y a le plus haut taux de grossesse d'adolescente. Ils sont pas au premier paradoxe.
Non, c'est ça.
C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Sur une autre note un peu plus joyeuse quand même, c'est l'ancien chanteur... chien, puis ils ont haha, mais je ne parle pas dans l'espagnol. Il a eu droit à des obsèques nationales 36 ans après sa mort, que ça a eu lieu le 5 décembre dernier. C'est ça, il avait été exécuté peu après le coup d'État de 11 septembre 1973, quand Augusto Pinochet avait pris le pouvoir.
Ouais, le 11 septembre qui a coûté 40 000 vies.
L'autre 11 septembre
que depuis le 11 septembre 2001 qu'on ne parle plus. C'est un comptage de plus de 3000 personnes arborant œillets et drapeaux rouges accompli le cercueil de Haha à travers le centre de Santiago, vers le stade général de la capitale. C'est sa veuve qui avait récupéré secrètement le corps qui avait dans le sac que ces cérémonies-là a pu avoir lieu. Puis ça a été le point culminant de 3 jours d'hommage national au chanteur qui s'est thématisé du monde des arts, de la culture, de la politique, aussi des miniatures ordinaires, nostalgiques, des ballades de Jara, un artiste engagé très populaire en Amérique latine au moment de sa mort à 39 ans. Cet hommage-là, ça fait suite à la dépouille en juin dernier pour des tests médicaux légaux pour essayer de savoir pourquoi il était mort, dans le fond. Il y a un ex-soldat âgé de 18 ans en 1973 qui avait été inculpé en mai après des aveux partiels, mais là, il dit qu'il s'est rétracté puis il est libéré sous caution, mais ils n'ont pas... donne pas vraiment.
J'ai tué quelqu'un, mais c'était pas lui.
J'ai déni.
Celui avait été tué après que dans les heures suivant le coup d'État du 11 septembre 1973, quand le président socialiste Salvador Allende, il avait été détenu dans un stade de Santiago, 5000 personnes. Il avait été frappé et torturé avant d'être tué détenu par balle après qu'il ait osé faire face aux hommes de main de Pinochet.
Pinochet, un tendre.
Oui, oui. Un personnage sympathique.
Vraiment un trou de cul jusqu'à la fin de ses jours.
C'est une dictature de la gracieuseté de la CIA.
Ah, ben oui. Faut quand même pas que la gauche prenne le cours arrière des États-Unis.
Arrière loin, mais bon.
C'est si près.
C'est si près, oui. Dans le monde mondialisé. Ben, d'ailleurs, dans ce monde mondialisé, si on allait en Grèce pour voir de nouveaux affrontements, en fait.
Anniversaire.
Ouais, c'est ça, un anniversaire. L'anniversaire de la mort du jeune homme de 15 ans qui était Alexis Grigoropoulos. Dans le fond, qui avait été tué par les policiers l'hiver dernier, ou l'automne dernier. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a eu de nouvelles manifestations. Là, à la base, il y a eu une manifestation étudiante pour commémorer cet événement-là. Puis aussi, là, au travers de ça, il y a eu quelques groupes, j'imagine des groupes anarchistes, les Black Blocs et tout, qui avaient un peu embarqué dans le mouvement, qui avaient lidé le mouvement aussi l'année dernière.
Qui avait quand même mené à des élections, si je me rappelle
oui,
bien.
Oui, qui
mené
à des élections, qui ont foutu dehors
les conservateurs.
Pour amener une dynastie de gauche.
Oui, tellement mieux. Mais il y a eu quelques heures dans ce coin-là. Puis on parle pas là, dans le fond, d'un retour à une lutte au même titre qu'on pouvait l'envisager l'année dernière. Là, c'est plus un sursaut. Donc
un petit rappel
que ça s'est arrivé.
Ce qui est étonnant en Grèce, c'est que là, dans les journaux, ils parlent souvent d'anarchistes parce que c'est des gens habillés tout en noir, cagoulés, fait qu'ils se creusent pas la tête, c'est des anarchistes. Mmh. Mais ça fait partie des pays où les gens aiment pas les étiquettes politiques, mais même l'anarchisme. Pas dans le sens anarchiste, c'est méchant. C'est une étiquette politique comme les autres qu'on n'en veut pas. Puis ils se déclarent autonomes, un peu comme en Allemagne. Même si t'as un mouvement anarchiste quelconque, t'as extrêmement beaucoup d'autonomes qui agissent de manière radicale, violente, et que ça fait partie de leur culture. Puis ils sont à des années-lumière de nous. Tu sais, ici, il y a une vitre cassée, puis... tout de suite, même la tête de la manif dénonce la manif.
Ouais,
là. Mais là-bas, ils tiennent le même discours que certains d'ici peuvent tenir. Ben, c'est quoi la violence entre laisser quelqu'un crever de faim au coin de la rue ou bien péter la vitre d'une banque? Dis-moi, c'est quoi la violence?
Ben, si tu veux mon avis ou tu veux l'avis de...
Ben, la tête de la manif te dirait, c'est pas ça c'est la pas, question.
Ouais, mais non, effectivement, il y a une nuance à faire là, entre ce milieu-là et le milieu d'ici. Mais suite à ce rappel-là aussi, d'autres manifestations, sauf que cette fois-là, c'est en Italie. Puis là, on parle de plus d'1 million de personnes qui sont sorties contre Berlusconi.
Oh.
On dit, contre le fasciste Berlusconi, dans le fond, suite... à toutes. À toutes qui...
L'ensemble de
l'ensemble de son œuvre, c'est ça. Si je comprends bien, en fait, ce qui semble avoir fait, on peut dire, déborder le vase ces derniers temps, qui a fait sûrement un peu que le succès de la manif a été aussi grand, c'est entre autres le fait qu'il y a des liens avec... des liens présumés jusqu'à maintenant, mais en tout cas, on va dire que c'est des liens... assez clair entre Silvio Berlusconi et un chef de la mafia de Milan, de Palerme et Milan en tout cas. Puis deux parrains, c'est ça.
C'est lui le parrain des parrains.
Ouais, c'est ça justement, avec ça qui possède toutes les télés et tout.
Il peut bien avoir des liens.
Puis c'est ça, il y a vraiment eu beaucoup de monde qui sont descendus dans les rues, puis c'était comme le No Berlusconi Day.
J'aime ça.
Ouais, aussi. Puis en gros, ils ont dénoncé son fascisme à peine voilé et sa corruption et tout.
Mais en fait, lui, il prêche à droite et à l'extrême droite. Ça le fait gagner parce qu'il est associé à la Ligue du Nord, si je me rappelle, qui eux passent constamment des lois dignes de. Même pire que Berlusconi à certaines égards.
Ils sont fascistes. Là,
c'est du fascisme, mais beaucoup plus. Je dirais que ça se rapproche du nazisme en question de pure. Parce que le fascisme de Berlusconi, oui, il y avait un certain idéal de l'homme parfait. On dit l'homme parce que le fascisme parle pas forcément de la femme à part bien gentille à la maison. Mais il parlait, oui, il y avait une certaine question de pureté, mais très peu abordée à comparer le nazisme ou même comparer la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, on dirait qu'elle fait un mélange des deux. Ils travaillent dur là-dessus.
Mais eux autres, c'est la Ligue du Nord, ce qui arrive aussi, c'est qu'eux autres, c'est comme c'est pas l'Italie en tant que telle, c'est le Nord de l'Italie. C'est nous autres qui est supérieur parce qu'au sud de l'Italie, il faut dire qu'il y a quand même une disparité économique assez importante entre les deux.
Et en plus, pour
régions,
eux, le sud, c'est des bâtards. Sérieusement, je connais. J'ai grandi dans les quartiers à Montréal où il y avait beaucoup d'Italiens, puis. Même ceux qui n'étaient pas racistes ou quoi que ce soit, ils disaient « c'est incroyable le clash nord-sud ». Au nord, les femmes sont belles, nanana, ils arrivaient tout le temps avec ça, tandis qu'au sud, il y avait toujours des trucs dans l'un, t'es comme « je sais pas, je trouve ça bizarre, mais bon, c'est des trucs identitaires encore
». Alors,
on va aller en musique,
ouais,
pour changer les idées un peu. On va y aller avec Los Tres Puntos qui nous disent « marche ou crève ».
Bon.
que oui.
Oh oh, on est de retour.
Oui. Alors,
bon, ben, des actions vont-tu bien?
Des actions. Mes actions.
Mais oui, mais c'est parce que là, c'est la période des révélations, des résultats des banques, voyons.
Ah oui, j'ai fait 1 million cette année.
Ah, c'est
mais je l'ai perdu tout de suite après, ça va. Tout ça avec une pièce d'action.
Mais bonne nouvelle, genre, parce que les profits des banques sont en hausse. C'est
merveilleux. Ah, je me sentais mieux, justement.
L'économie va mieux. Le sentez-vous?
Je me demandais si c'était ça ou les vacances. Ouais. J'étais plus sûr. Voyons, qu'est-ce qui va mieux?
Mais non, mais en tout cas, ben, je sais qu'il y a une couple de semaines, je vous parlais entre autres des banques en Europe et tout, puis je disais, on n'a pas les chiffres pour le Canada, puis, mais je trouvais ça dommage, mais là, on les a. Puis c'est comme... Ben, c'est comme on pouvait s'y attendre.
On
là,
les a tu bien sauvés.
On a fait plein de cash sur notre dos.
On les a tu bien sauvés.
On les a merveilleusement bien sauvés. Ils sont en train de comme péter le plafond. En tout, là, disons, les 6 grandes banques, ben, les 6 banques au Canada, là, notre oligarchie bancaire, dans le fond, ils viennent de nous faire sur le dos 14,3 milliards.
Juste ça?
Juste ça.
Pff, m'attendais à bien mieux.
Ben, là, c'est un peu, là, on est en crise économique, là.
Je suis outré. Tous mes impôts qui sont allés dans ces banques-là, là, ils auraient pu faire mieux.
Ben oui, mais c'est parce qu'ils se sont donné des bonus. Ça, c'est le profit. C'est pas ça. Hein? Bon. Il faut que tu considères
bien que ça.
Ben, ouais, c'est ça. T'sais, quand tu t'habilles à 2000 pièces le complet, là, ça revient cher. Hein? Payé à Mercedes. Ils
font rouler l'économie.
Ben, c'est ça. Fait que, ben, c'est, en gros, c'est ça. Je veux dire, là, on parle de la Scotia qui triple son bénéfice cette année, la Royal qui augmente de 10%, BMO 80%, CIBC 47%, puis la Banque nationale 244%. Fait que, c'est comme. C'est juste comme ça, tu sais, c'est des légers montants qui... Mais ça, c'est pour le quatrième trimestre, là. C'est
pour, même pas pour une année complète?
Ben, pour une année, c'est... Mais tu sais, c'est comme les premiers trimestres, ils ont comme... ils étaient encore dans la crise ou je ne sais trop, mais bref, ça fait quand même une augmentation quand même très importante pour la plupart des banques, mais c'est pas toutes les banques là, qui ont comme augmenté leurs profits, mais je veux dire, en tout, là, je veux dire, par rapport à 2008, là, l'année 2009, c'est comme je disais, en tout, c'est 14,3 milliards, puis en 2008, on parlait de 12,2 milliards en crise là, dedans, là. Puis... Mais au-delà de ça, c'est sûr, entre les banques, il y a quelques disparités, mais c'est minime.
J'ai le sentiment de nationaliste canadien dans le piton quand tu me parles de même.
Ça y est, moi aussi, je suis comme assez content que notre système bancaire soit aussi solide. Là,
hey, puis, mec, hein.
Le rebond qui va arriver. Là. En tout cas, j'ai hâte qu'il soit dans mes poches, mais ça, c'est...
Donc, ouais, t'es égoïste.
Ouais, je sais. Qui voulez-vous? Bon, mais en tout cas, au-delà de ça, on paye quand même trop d'impôts, tu sais, il faut quand même... ça, c'est selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, okay. Qui vient nous dire qu'on paye trop d'impôts au Québec, tu sais, comme la rengaine habituelle, la compétitivité...
Ouais, mais on vient de les sauver.
Ben, non, mais c'est ça, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il aurait fallu les sauver, tu sais, avoir juste assez d'impôts pour qu'on les sauve, mais... pas trop d'impôts pour que, comme on n'ait plus de programmes sociaux, qu'on se paye plus de...
Au fond, des impôts que le particulier paierait pour les
pour
compagnies.
Les... C'est ça.
Sans aucun retour.
C'est ça. Mais c'est comme...
C'est pas fou.
Tu sais, il nous donnerait de l'argent à nous, tu sais, comme ça, on pourrait, genre, repayer des impôts. Puis comme ça, ces impôts-là iraient pour sauver les entreprises. Fait que dans le fond, tu sais, on n'aurait comme pas vraiment de salaire. Fait qu'on pourrait travailler comme gratuitement pour les entreprises.
Hey, j'y avais pas pensé.
C'est ça.
Ils fournissent-tu les chaînes?
Pour ça, je pense que ça pourrait se dealer là, au cas par cas. Là.
Le gars qui fouette, c'est un travailleur.
Ouais, ben, on se relairait, tu sais, comme dans Astérix. Fait que, bref, ça ressemble en gros au monde idéal qui nous est demandé là, par les PME du Canada, là, tu sais, de comme essayer de. Justement, arrêtez de payer pour le pauvre monde.
Sauvez-nous, qu'on n'ait pas à rien payer après.
C'est ça.
Mais tu sais, ça fait changement. D'habitude, le monde, ils nous disent qu'on ne paye pas assez cher l'électricité, puis des affaires là, moi.
Oui, mais c'est parce que tu n'as pas posé la question. C'est parce que le journaliste, il n'a pas posé la question.
Et voilà.
Voyons donc, il aurait été tout prêt à te le dire que tu payes pas assez cher ton électricité.
Faudrait le prix du marché.
Mais c'est ça. Le marché, il faudrait qu'il appartienne à lui, par exemple. Là. Puis c'est Trump. Là,
oui, mais... il faudrait vendre Hydro-Québec, payer la dette du Québec.
C'est ça. Ils sont tout prêts à l'acheter, eux autres. Ils veulent pas payer d'impôts, mais ils ont le cash pour acheter Hydro, par exemple.
Ben oui.
C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre.
Ah, fait que, monter de laine, une fois de temps en temps.
On se fait fourrer bien bonjour. C'est
encore, puis on aime ça.
C'est ça.
Encore et encore.
Mais dans la lignée de genre on paye trop d'impôts, puis le gouvernement conservateur à Ottawa fait en sorte que justement on essaie d'en payer moins, mais tout en ayant une armée plus performante, il est en train de couper tous les groupes là, qui font du travail sur le terrain, genre alternative. Oui. Genre, on parle aussi d'un autre groupe que personnellement je connaissais pas, là, mais Kaidos, je pense. Puis bref, c'est comme. Ils viennent de couper une subvention de l'ACDI qui allait au groupe alternatif, qui valait à peu près 2,1 millions. Puis ce groupe-là alternatif, bon, on connaît le journal, ils font de l'information critique de gauche.
Ouais, c'est dans le Devoir qui est diffusé une affaire de même, une fois par mois.
Il était diffusé, mais là, ils sont devenus avec une version à peu près seulement Internet. Là. Ils ont réduit beaucoup leur tirage papier. Fait que, en gros, cette subvention-là servait au journal, servait, dans le fond, au volet informatif. Puis, alternative aussi des stages dans les pays divers dans le sud pour, entre autres, monter des systèmes informatiques, aider concrètement les gens.
Des émissions, des radios aussi.
Des radios aussi, c'est ça. Mais il y avait une émission aussi à un certain moment.
Alternative
sur les ondes de Sequoia. Puis, fait qu'en gros, c'est ça, le couperet tombe un peu partout, surtout ce qui n'est pas de la vie.
Si t'es pas un ami du parti,
si t'es pas dans les...
Les ambassadeurs, pas amis du parti, sont coupés.
C'est ça.
J'aime ça, mais au moins, ça a le mérite d'être franc.
Ouais, on le voit partout, mais en tout cas...
On a encore le temps d'une petite nouvelle.
Bon.
Vite.
OK. Je vais en parler vite, puis de toute façon, on pourra y revenir éventuellement, parce que justement, c'est un rapport qui a été sorti en Alberta par rapport à le professeur David Schindler de l'Université de l'Alberta par rapport d'un fond au sable bitumineux. Puis... ce qu'il dit en gros, c'est que ça pollue.
Ah, pour vrai. Oh, surprise!
Non, c'est ça, mais.
non, wow! Ben...
Ouais, OK. C'est qu'il amène des preuves scientifiques parce que, bon, ça...
C'est pas tout de le voir.
Non, c'est ça, c'est pas
faut
tout.
Faut le quantifier.
Faut le quantifier, puis tu sais, de constater que quelqu'un en pleine santé devient malade, comme du passé et tout.
Fait non.
Que ça prend des taux de diverses affaires, mais en gros, c'est que ça rejette dans un rayon de 50 km autour de ces industries-là toutes sortes de trucs avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques, là, des trucs qui donnent envie d'en boire. Là.
Aromatique.
Ouais, aromatique, c'est ça. Puis la rivière Athabasca, qui est comme la source d'eau là, des raffineries de sable bitumineux, est complètement polluée. En tout cas, complètement polluée, complètement dangereuse pour les populations qui vivent autour d'elle, puis entre autres pour les Premières Nations qui vivent encore de la pêche et de la chasse, puis tout ça. Fait que, on va arrêter là-dessus, puis je vais essayer de voir un documentaire qui s'appelle H2 Oil, que j'ai essayé de le voir, mais il est comme pas disponible, puis ça porte justement sur ce sujet-là. Et on s'en reparlera éventuellement.
On va mettre notre équipe de reporters là-dessus.
Ouais, c'est ça. Deux petites plugs en terminant. D'une part, il y a sur les ondes de TV5, il y a une émission qui s'appelle Hors Série.
Oui, j'ai vu ça.
Ouais. Puis cette semaine, on voit nos faces.
Et voilà. Moi, je vois surtout mon derrière de tête. Ça me satisfait amplement.
Mais c'est ça, il était venu tourner au mois de mai dernier, puis pas seulement avec nous autres, là, mais il parle de l'anarchie en général au Québec, puis de dire dans le fond qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qui on est. Fait que si vous voulez accéder à l'émission, c'est passé mardi, donc c'est seulement disponible sur Internet, je crois, à moins qu'il y ait une reprise, mais j'ai pas vu l'information. Donc si vous allez sur notre blog Voix de fait, avec un X et un S.blogspot.com, vous allez avoir le lien pour vous rendre à ce site-là qui est l'émission hors série sur TV5. C'est une première plug. Ensuite, cette semaine, vendredi le 11 décembre, il y a une manifestation du monde communautaire, dans le fond, en marge de la consultation du ministre Sam Ahmad sur le plan de lutte à la pauvreté. Pour les détails, là, je suis désolé, j'ai oublié de les noter, puis je m'en excuse.
Allez sur notre blog.
Allez sur notre blog, c'est écrit, c'est ça. Puis il y a d'autres sites internet, là, entre autres du collectif Fait pour un Québec sans pauvreté, www.pauvreté.qc.ca, où vous allez avoir toutes les informations. Puis pour la fin de la journée aussi, le souper de solidarité au Centre Horizon, 801 4e rue à Limoilou, au profit justement du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec.
Ça va être tout pour ce soir.
Ça va être tout pour ce soir, je vous dis.
Et
bonne soirée.
Ce soir,
bonne...
parce que la rediffusion, oui, nous ont perdu.
Déjà,
vrai? Oh, oui, à la semaine prochaine.
Je meurs au travailleur, je vais fort de mon cœur.